Salut tout le monde et bienvenue à The Deep Dive. Aujourd'hui, on se lance dans un sujet qui concerne non seulement les athlètes professionnels, mais aussi nous autres sportifs amateurs, les blessures de la cage thoracique. On a tous ressenti une douleur à la poitrine après un effort intense ou un faux mouvement, n'est-ce pas? Mais saviez-vous que ces douleurs, même légères, peuvent avoir un impact énorme sur vos performances sportives?
Absolument. La cage thoracique, on la voit souvent comme une simple armure pour nos organes vitaux, mais son rôle dans la performance sportive est souvent sous-estimé.
Et c'est justement ce qu'on va explorer aujourd'hui. Notre source principale pour cette plongée, c'est un texte médical qui propose une approche intégrée pour le diagnostic et le traitement de ces blessures. On va décortiquer les causes, les symptômes, les méthodes de traitement et même les innovations à venir dans le domaine.
Ce qui est fascinant, c'est que cette approche ne se limite pas au traitement classique. On parle de médecine manuelle, de thérapie laser, de choc, de naturopathie. On sort des sentiers battus pour offrir une prise en charge vraiment holistique.
Alors, avant de parler de traitement, commençons par le commencement. La cage thoracique elle-même. Rappelle-moi, en plus de protéger nos organes, quel est son rôle exactement?
Imaginez un instant que vous jouez au tennis. Chaque service, chaque coup droit, chaque déplacement sollicite votre cage thoracique. Elle agit comme un ressort, une structure dynamique qui permet la transmission de force des jambes aux bras.
Ah oui, je vois. C'est comme un maillon essentiel dans la chaîne cinétique du mouvement. Et en plus de la force, la cage thoracique est aussi impliquée dans la respiration, n'est-ce pas?
Tout à fait. Elle se dilate et se contracte à chaque inspiration et expiration, permettant aux poumons de se remplir et de se vider d'air. Une cage thoracique rigide ou bloquée peut donc limiter votre capacité respiratoire et impacter votre endurance.
C'est incroyable comme un élément qu'on considère souvent comme passif joue un rôle aussi actif dans la performance sportive. Mais du coup, qu'est-ce qui peut causer des blessures à cette structure si importante? On pense tout de suite au sport de contact, mais notre source mentionne aussi des causes moins évidentes.
Effectivement. Les coups directs, les chutes, ça peut évidemment causer des fractures ou des contusions. Mais ce qui est plus insidieux, ce sont les micro-traumatismes répétés.
Micro-traumatismes, c'est-à-dire?
Prenons l'exemple d'un nageur. À chaque mouvement de bras, les muscles et les articulations de sa cage thoracique subissent de petites contraintes. Répétées des milliers de fois, ces contraintes peuvent entraîner des inflammations, des tendinites, des douleurs chroniques.
Donc, même sans choc violent, la répétition d'un mouvement peut finir par endommager la cage thoracique. C'est une information importante pour tous les sportifs, quel que soit leur niveau. Mais comment savoir si on a une blessure? La douleur est un signe évident, mais y a-t-il d'autres symptômes plus subtils qu'on pourrait ignorer?
La douleur est effectivement le signal d'alarme le plus courant. Mais attention, elle peut être diffuse, intermittente, voire masquée par l'effort. Il faut aussi être attentif à d'autres signes comme une raideur au niveau de la poitrine, une difficulté à respirer profondément, une sensation de craquement ou de blocage lors des mouvements.
C'est vrai, on n'y pense pas toujours. On met ça sur le compte de la fatigue musculaire ou d'un mauvais échauffement. Mais si on ignore ces signaux, on risque d'aggraver la blessure, n'est-ce pas?
Absolument. Un diagnostic précoce est crucial pour éviter des complications à long terme. Et c'est là que l'approche intégrée dont parle notre source prend tout son sens.
J'avoue que je suis curieuse d'en savoir plus sur cette approche TAGMED, comme l'appelle la source. Qu'est-ce qui la rend si spéciale?
TAGMED, c'est l'acronyme de thérapie avancée guidée par la médecine et les données. En gros, on combine différentes techniques de pointe pour offrir un traitement personnalisé et holistique.
Ok, ça a l'air très complet. Mais concrètement, qu'est-ce que ça implique? On parle de médicaments, de kinésithérapie, de quoi d'autre?
On va bien au-delà des traitements classiques. Imaginez utiliser la thérapie laser pour stimuler la régénération cellulaire et accélérer la guérison des tissus endommagés. Ou encore, les ondes de choc pour débloquer les tensions musculaires profondes et relancer la circulation sanguine.
Des ondes de choc. Ça a l'air un peu radical, non?
Pas du tout. Ce sont des ondes acoustiques très précises qui provoquent des micro-traumatismes contrôlés dans les tissus. C'est un peu comme un réveil pour les cellules endormies. Ça relance les processus naturels de guérison.
C'est fascinant. Et en plus de ces technologies de pointe, vous avez mentionné la médecine manuelle et la naturopathie. Comment s'intègre-t-elle dans ce protocole?
L'ostéopathie, par exemple, est très efficace pour réaligner la cage thoracique, libérer les tensions musculaires, restaurer la mobilité articulaire. C'est une approche douce, mais très puissante pour rétablir l'équilibre du corps.
Et la naturopathie, c'est pour compléter le traitement avec une approche plus naturelle.
Exactement. On peut utiliser des plantes anti-inflammatoires, des compléments alimentaires pour la réparation des tissus, des techniques de relaxation pour gérer le stress et favoriser la récupération. L'idée, c'est de soutenir le corps dans son processus naturel de guérison.
Donc, au lieu de se contenter de masquer les symptômes, on s'attaque à la racine du problème avec une approche globale et personnalisée. C'est vraiment une nouvelle façon de concevoir le traitement des blessures.
Et ce qui est intéressant, c'est que cette approche est basée sur les données scientifiques les plus récentes. On utilise des capteurs pour mesurer la force musculaire, l'amplitude des mouvements, la posture. Ces données permettent d'affiner les protocoles de traitement et d'optimiser les résultats.
Waouh, on est vraiment à la pointe de la médecine sportive. Mais avant de s'emballer, je pense qu'il est temps de faire une petite pause et de résumer ce qu'on a vu jusqu'ici.
Volontiers. On a compris l'importance de la cage thoracique, non seulement comme protection, mais aussi comme élément clé de la performance sportive. On a vu les différentes causes de blessures, des plus évidentes aux plus insidieuses. Et on a découvert l'approche TajMed, qui combine différentes techniques pour offrir un traitement vraiment personnalisé et holistique.
Merci pour ce résumé clair et concis. On se retrouve dans la deuxième partie pour explorer plus en détail les phases de la rééducation et les innovations à venir dans le domaine.
À tout de suite, on reprend notre exploration des blessures de la cage thoracique et maintenant on va se pencher sur la rééducation. C'est une étape cruciale pour retrouver toutes ses capacités après une blessure.
Exactement. Et j'ai lu dans notre source que la rééducation, ce n'est pas juste du repos et des étirements. On parle d'une approche personnalisée en plusieurs phases.
Tout à fait. Chaque blessure est unique et le protocole de rééducation doit être adapté à l'individu, à la nature de sa blessure, à son niveau d'activité et à ses objectifs.
Dites-moi plus sur ces différentes phases. Par où on commence ?
Eh bien, la première phase, c'est la phase aiguë, juste après la blessure. L'objectif principal, c'est de contrôler la douleur et l'inflammation.
Donc, on applique de la glace, on prend des anti-inflammatoires si nécessaire, et on reste au lit.
Pas forcément. Le repos est important, mais une immobilisation prolongée peut être contre-productive. On encourage plutôt des mouvements doux dans la limite de la douleur pour maintenir une certaine mobilité et éviter la raideur.
Ah d'accord, donc on bouge un peu en douceur dès le début et ensuite on passe à quoi ?
À la phase de récupération active, là on commence à introduire des exercices d'étirement et de mobilité pour restaurer la souplesse des muscles et des articulations de la cage thoracique.
Par exemple, donnez-moi un exercice concret que je pourrais faire chez moi.
Un exercice simple et efficace, c'est la respiration diaphragmatique. Allongez-vous sur le dos, les genoux fléchis, et concentrez-vous sur votre respiration abdominale. Gonflez le ventre à l'inspiration et rentrez-le à l'expiration.
Ah oui, je connais cet exercice. Ça détend les muscles intercostaux et ça aide à retrouver une bonne amplitude respiratoire. Et après la récupération active, on passe à la phase de renforcement musculaire.
Exactement. Dans cette phase, on va solliciter les muscles de la cage thoracique avec des exercices plus intenses, en utilisant des poids, des élastiques ou simplement le poids du corps.
J'imagine qu'il faut y aller progressivement, sans brusquer les choses.
Bien sûr. On commence par des exercices de base, comme des rotations du buste, des flexions latérales, des pompes. L'important, c'est d'adapter la difficulté à son niveau et de progresser graduellement.
Et en plus du renforcement musculaire, est-ce qu'on travaille aussi la proprioception, cette fameuse conscience de la position de son corps dans l'espace ?
Absolument. Après une blessure, il est important de rééduquer la proprioception pour retrouver une coordination et une stabilité optimales.
Et comment on fait ça concrètement ?
On peut utiliser des surfaces instables comme un coussin d'équilibre ou un BESU pour solliciter les muscles stabilisateurs. On peut aussi faire des exercices les yeux fermés pour obliger le corps à s'adapter et à retrouver ses repères.
Donc on met le corps en situation de déséquilibre pour qu'il apprenne à se rééquilibrer. C'est malin. Et une fois qu'on a retrouvé une bonne force, une bonne mobilité, une bonne proprioception, on est guéri. On peut reprendre le sport comme avant.
Pas si vite. La dernière phase de la rééducation est peut-être la plus importante, c'est la prévention. L'objectif, c'est d'éviter que la blessure ne se reproduise.
Ah oui, c'est logique. Mais comment fait-on pour prévenir les récidives ?
Il faut adopter de bonnes habitudes au quotidien. Un bon échauffement avant l'effort, une technique sportive adéquate, un renforcement musculaire régulier, une bonne gestion du stress, une alimentation équilibrée.
En gros, il faut prendre soin de ta cage thoracique, comme on prend soin de n'importe quelle autre partie de son corps.
Exactement. Et surtout, il ne faut pas hésiter à consulter un professionnel de santé si on ressent une douleur ou une gêne. Mieux vaut prévenir que guérir, comme on dit.
Tout à fait d'accord. Mais dites-moi, cette approche de la rééducation est-elle uniquement basée sur des exercices traditionnels ou est-ce que la technologie y a aussi sa place ?
La technologie joue un rôle de plus en plus important dans la rééducation. On peut utiliser des capteurs pour mesurer la force musculaire, l'amplitude des mouvements, la posture. Ces données permettent d'affiner les exercices, de suivre les progrès du patient et d'adapter le programme en temps réel.
C'est comme avoir un coach virtuel qui nous guide à chaque étape.
Exactement. Et la technologie peut aussi faciliter la communication entre le patient et son équipe soignante. On peut partager des vidéos d'exercices, suivre l'évolution des symptômes à distance.
C'est vraiment une révolution dans la prise en charge des blessures. Et j'imagine que la recherche continue d'explorer de nouvelles pistes pour améliorer encore les protocoles de traitement.
Absolument. On s'intéresse notamment au potentiel de l'intelligence artificielle pour personnaliser encore davantage les programmes de rééducation. On explore aussi l'utilisation de la réalité virtuelle pour créer des environnements immersifs stimulants pour les patients.
Tout cela semble très prometteur. Mais avant de se projeter dans le futur, je pense qu'il est important de rappeler que la cage thoracique, ce n'est pas qu'une affaire de sportif.
Vous avez raison. Une cage thoracique fonctionnelle, c'est essentiel pour tout le monde. Elle joue un rôle dans la respiration, la posture, la digestion.
C'est vrai, on ne pense pas toujours à ces liens.
Par exemple, une respiration diaphragmatique ample et profonde, ça permet non seulement d'oxygéner les muscles, mais aussi de masser les organes internes, de stimuler le système lymphatique, de réduire le stress.
C'est incroyable. En prenant soin de notre cage thoracique, on améliore notre santé globale.
Exactement. Et ça passe par des gestes simples au quotidien. Se tenir droit, respirer profondément, bouger régulièrement.
C'est un message positif et encourageant. On a tous le pouvoir d'agir pour notre santé à notre niveau.
Bon, je crois qu'on a fait le tour de la rééducation et de ses implications. On se retrouve dans la dernière partie pour conclure notre exploration et voir comment intégrer toutes ces connaissances dans notre quotidien.
Pas tout de suite. Et nous revoilà pour la dernière partie de notre deep dive sur les blessures de la cage thoracique. On a déjà vu beaucoup de choses. L'importance de la cage thoracique pour la performance, les causes des blessures, les différentes phases de la rééducation, les innovations technologiques.
Exactement. On a vraiment décortiqué le sujet sous tous ses angles. Maintenant, il est temps de voir comment appliquer toutes ces connaissances dans notre vie quotidienne.
Oui, parce que tout ça, c'est bien beau en théorie, mais comment est-ce qu'on intègre concrètement ces informations dans notre pratique sportive, et même au-delà?
Eh bien, le premier point, et le plus important, c'est la conscience corporelle. Apprenez à écouter votre corps, à identifier les tensions, les douleurs, les limitations de mouvement. C'est vrai qu'on a souvent tendance à ignorer les signaux d'alerte, à serrer la dent et à continuer comme si de rien n'était.
Et c'est une erreur. Plus on attend, plus la blessure risque de s'aggraver. Donc dès que vous ressentez une gêne, une douleur, une raideur au niveau de la cage thoracique, il faut s'arrêter, analyser la situation et éventuellement consulter un professionnel de santé.
D'accord, on écoute son corps, on ne force pas. Et en dehors de ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour prendre soin de notre cage thoracique au quotidien?
Il y a plusieurs choses simples qu'on peut intégrer à notre routine. Par exemple, la respiration diaphragmatique, dont on a déjà parlé. Quelques minutes par jour suffisent pour détendre les muscles intercostaux, améliorer l'amplitude respiratoire et réduire le stress.
C'est vrai que la respiration, c'est la base. On le fait tout le temps, mais rarement de façon consciente.
Exactement. Prenez le temps de vous concentrer sur votre respiration, de sentir votre ventre se gonfler et se dégonfler à chaque inspiration et expiration. Vous verrez, ça fait des miracles.
Et en plus de la respiration, qu'est-ce que vous recommandez?
Des étirements réguliers. Il existe de nombreux exercices simples et efficaces pour améliorer la mobilité de la cage thoracique, la souplesse des muscles intercostaux, la flexibilité de la colonne vertébrale.
Par exemple, donnez-nous une idée d'étirement qu'on pourrait faire facilement chez soi.
Un étirement facile, c'est l'étirement latéral. Debout, les pieds écartés à la largeur des épaules, levez un bras au-dessus de la tête et penchez-vous doucement sur le côté opposé, en sentant l'étirement le long de votre flanc. Maintenez la position quelques secondes, puis répétez de l'autre côté.
Simple et efficace. On va tous l'essayer dès ce soir. Et en plus des étirements, est-ce qu'il faut aussi faire des exercices de renforcement musculaire?
Absolument. Des muscles forts et stables permettent de mieux protéger la cage thoracique et de prévenir les blessures. On peut faire des exercices avec des poids, des élastiques ou simplement le poids du corps.
Par exemple, des pompes, des tractions, des exercices de gainage.
Exactement. L'important, c'est de choisir des exercices qui sollicitent les muscles de la cage thoracique, du dos, des épaules et des abdominaux. Et comme toujours, il faut y aller progressivement en adaptant la difficulté à son niveau.
D'accord. On a donc la respiration, les étirements, le renforcement musculaire. Avec tout ça, on devrait être paré pour éviter les blessures de la cage thoracique, non?
En tout cas, ça met toutes les chances de votre côté. Mais n'oubliez pas que chaque individu est différent. Il n'y a pas de solution miracle. Il faut trouver ce qui fonctionne le mieux pour vous. Et surtout, n'hésitez pas à demander conseil à un professionnel de santé si vous avez des doutes ou des questions.
C'est un excellent conseil. Je crois qu'on a fait le tour de la question. On arrive à la fin de notre deep dive sur les blessures de la cage thoracique.
J'ai appris énormément de choses aujourd'hui et j'espère que vous aussi, chers auditeurs.
Moi aussi, j'ai beaucoup apprécié cette exploration. C'est un sujet passionnant et on voit qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir et à apprendre.
Et pour conclure, j'aimerais poser une question à nos auditeurs. Qu'est-ce que vous retenez de cette discussion? Qu'allez-vous changer dans votre quotidien pour prendre soin de votre cage thoracique? N'hésitez pas à partager vos réflexions avec nous sur les réseaux sociaux.
Et n'oubliez pas que cet épisode était entièrement en français. Partagez-le avec vos amis et votre famille qui pourraient être intéressés par le sujet.
On se retrouve très bientôt pour un nouveau deep dive dans un autre sujet tout aussi fascinant. D'ici là, prenez soin de vous et votre cage thoracique.